Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre séance de votre conseil municipal du 8 août 2022. Alors, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il y a eu, bien sûr, une rencontre préparatoire. Les membres du conseil en ont déjà pris connaissance. Alors, s'il n'y a pas de modification à cet ordre du jour qui se manifeste, on va demander, une proposition pour adoption.
Hugo Pierre Bellemare, c'est le numéro 1, je propose.
Ensuite, on a l'adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 11 juillet dernier. Alors, s'il y a absence, s'il y a maintien d'absence de modification, comme à la rencontre préparatoire, il n'y a pas eu non plus d'ajouts antérieurement qui ont été soumis à la rencontre préparatoire, alors je demanderai une proposition pour adoption.
Propose Elisabeth.
Merci. Quant aux affaires découlant du procès-verbal, la séance ordinaire du 11 juillet 2022, alors s'il n'y a pas... Si on ne manifeste pas qu'il y a des affaires découlant de ce procès-verbal, de la séance du 11 juillet, alors je demanderai une... On n'a pas besoin ici, pardon, de proposition. Gestion financière, rapport budgétaire, demande de crédit, paiement de compte, juillet 2022. Alors, dans la liste des comptes à payer, c'est un montant de 134 860,38. Dans la liste des comptes payés, c'est un montant de 62,50. Et dans la liste des salaires bruts, c'est pour un montant de 84 140,63. Alors, pour ces trois items, j'aurais besoin d'une résolution, d'une proposition, pardon, pour adoption de la résolution.
Richard, je propose.
Merci. Les encaissements pour le mois de juillet, on n'a pas besoin de proposition à cet effet-là, mais les encaissements pour le mois de juillet 2022 est d'un montant de 591 507,05. Quant aux approbations des écritures de journal, alors les entrées et sorties de compte, je demanderai à ce moment-là une proposition pour adoption de résolution.
Hugo Pierre Bellemare, c'est le numéro 1, je propose.
Merci. On est déjà rendu à notre première période de questions. Alors, ceux qui ont des questions parmi vous à poser, je vous inviterai à vous rendre au micro et à vous identifier.
Juste ouvrir le micro, s'il vous plaît. Petit piton sur le dessus. Il y a un bouton vert.
Il y a bien de l'air.
La technologie, c'est pas pour moi.
Je vais probablement me nommer pour les enregistrements. Bonjour, je m'appelle Yvon Lafont. Donc, j'ai des questions. Je ne parlerai pas toute la période de 15 minutes, évidemment. Il n'y a pas assez sûr qu'il y a des questions. Mon thème des questions, c'est les plaintes qu'on peut adresser à la municipalité. OK, j'ai vérifié, évidemment. J'étais à la municipalité, on m'a donné un formulaire. Première chose que j'aimerais vérifier avec vous, on assure la confidentialité du plaignant. OK? Est-ce que ça, c'est bien suivi? Parce que la semaine passée, il y a quelqu'un de Saint-Anne-Pérane, okay, qui a été accusé d'avoir porté une plainte, il s'est présenté, il a fait vérifier et on lui a donné le nom de la véritable personne qui avait donné la plainte. OK, on fournira les noms en temps et lieu si vous les voulez. OK, et ça s'est rendu au bureau de la Sûreté du Québec en passant, parce que ça a été plus loin que prévu cette histoire-là. Donc, ça veut dire que lorsqu'on porte une plainte, vous êtes garant de garantir le secret, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est votre procédure interne, moi, ça ne m'en garde pas. C'est pas la fin du monde, mais vous vous dites dans votre formulaire que c'est... que ce serait secret.
Tant pis, okay. Moi, personnellement, ce que je peux te dire, c'est que je les traite confidentiellement. Maintenant, quand une personne vient se plaindre d'une autre personne, tu comprendrais que cette autre personne-là, je la reçois pour l'entendre. Parce que toi-même, okay, personnellement, si quelqu'un viendrait dire du mal de toi à la municipalité, je ne sais pas, moi, tu n'as pas observé un règlement, bien, c'est clair que je vais vouloir entendre ta version, puis lui, je vais lui dire, bien, si vous me permettez, je vais entendre l'opinion d'autres personnes de qui vous vous plaignez. Parce qu'il a le droit de se défendre. Mm-hmm. Alors ça, moi, pour avoir été commissaire pendant des années en santé et services sociaux, c'est la procédure qu'on observe. Et c'est celle que j'observe.
Mais moi, maintenant,
s'il y a eu du coulage, ça ne vient pas de moi. Puis
j'ai pas dit que ça venait de vous.
Ça vient de notre personnel.
Madame Auprès, je n'ai pas dit que ça venait de vous, Madame la mairesse, là. Non, okay, j'ai simplement dit que la personne a été accusée d'avoir porté une plainte. OK, il a été obligé de porter plainte à la police pour assurer sa protection. Mm-hmm. Et là, la personne, il l'a su par quelqu'un de la municipalité. Mais ça ne regarde plus le reste. Si on va plus loin, ça ira plus loin. L'autre question que j'ai à vous poser, j'ai cherché après midi parce que c'est marqué.
Attends un peu, Yvon. Ce que je peux te dire, c'est que tu me l'apprends. Je ne suis pas
au courant. J'en doute pas, Mme Védron. OK. Mon autre question, c'est que j'ai cherché après midi, probablement que j'ai mal vu. Je cherche votre politique de gestion des plaintes. Sur votre formulaire, vous dites que les plaintes sont analysées selon des rigoureux, etc., okay, qui correspond à la plainte ou à la politique de plainte, de la gestion des plaintes de la municipalité de Saint-Apparent. Je l'ai cherché sur le site, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé sur les autres municipalités de la MRC, mais ça n'a aucun rapport avec nous autres. Je ne sais pas s'il y a un oubli ou j'ai peut-être mal cherché, ou j'ai peut-être mal vu.
Mais est-ce qu'à ton époque, il y en avait une politique de gestion des plaintes? Moi, je n'étais pas là à l'époque. Je n'étais pas là antérieurement. Je ne sais pas, M. Talper, si vous pouvez répondre.
À ma connaissance, il n'y a pas de politique formelle pour des plaintes.
OK. Non, c'est parce que moi, je l'ai cherché, puis ça, j'étais un peu surpris. Puis c'était marqué sur votre formulaire.
Il pourrait y avoir tout le moins une procédure, pas nécessairement une politique. Il pourrait y avoir une procédure de gestion.
C'est marqué sur le formulaire politique des plaintes. Bon, mon autre question est très simple. Moi, je porte une plainte contre quelqu'un. OK, là. J'aimerais, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas de politique, là, pouvez-vous me résumer c'est quoi, comment ça se passe? Je me doute que je complète le formulaire, je le signe, puis je mets tout ce qu'il y a à dire là-dedans. OK? Je me doute probablement que je vais la déposer à M. Taillefer. OK? Après ça, c'est quoi le processus? Parce qu'il n'y a pas de politique. Qui commence à analyser ça? Puis qui va dire c'est recevable ou non recevable? Je voudrais savoir comment ça va fonctionner. Pas dans les petits détails, mais juste dans les grandes lignes.
Ce que je peux dire, moi, c'est que quand un citoyen se plaint, je reçois le formulaire. Alors, à la réception, Mme Nathalie Girard me transmet la demande. Des fois, c'est des commentaires, c'est pas toujours une plainte. Quand c'est une
plainte, je parle d'une plainte formelle.
Bon, d'une plainte formelle, quand le citoyen prend la peine de l'écrire, on lui répond par écrit. Quand c'est verbal, ben, on répond verbalement.
Non, mais je comprends, maître compris, mais c'est pas ça, je veux savoir. Comment ça se passe, le processus d'analyse de la plainte?
Ben, on va regarder ce qui s'applique.
C'est qui ça, on?
Bien, moi, d'abord,
c'est
à moi qu'on s'adresse. Si on dit, Madame la mairesse, je me plains de, ou je porte à votre connaissance que, bon, ça va être moi qui vais le traiter, mais en consultation avec M. Talfer, parce qu'au niveau administratif,
okay, ben quand
c'est même, ça, je veux savoir. M. Talfer a probablement des choses à dire ou que je puisse comprendre le contexte aussi. Alors, à ce moment-là, on va lui répondre par écrit. S'il y a une insatisfaction, il peut me revenir et m'exprimer son insatisfaction. On va répondre à nouveau si les questions sont supplémentaires à celles qu'il avait déjà posées a priori.
Puis le M. Godin, là, je sais pas, j'ai oublié son prénom. Ça, OK. Il a aussi un rôle à jouer là-dedans parce qu'il est du côté du...
Oui, au niveau environnement, bâtiment, environnement. Oui, il peut répondre. Si, par exemple, un citoyen se plaint de l'application d'un règlement par rapport à du remblai, par exemple, du remblai qui a été fait illégalement dans le littoral, bien, je veux dire, si son voisin s'en plaint, il va recevoir la plainte.
Mais sa plainte doit être par écrit?
Oui, il va répondre par écrit. Si la personne lui fait, lui formule une plainte par écrit.
Bon. Question
mais ça peut être aussi simplement au téléphone. Il y a beaucoup de téléphones, vous savez.
Oui. Non, mais
moi, je suis très occupé avec les trois
parce que je veux savoir si je dépose une plainte écrite, là, elle va être étoffée, là. C'est qui va juger ça? C'est ça que je voulais savoir.
Bien,
bon, d'autres questions que j'ai simplement
posées. Ça va être la mairie et la direction générale. On va traiter la plainte de concert.
Est-ce que le conseil municipal a juridiction pour appliquer la loi sur la protection du territoire agricole du Québec pour un non-respect?
Pour le non-respect de?
Parce que, mettons que j'utilise la terre pour une activité autre qui est permise par la loi sur la protection du territoire agricole du Québec. Est-ce que la municipalité a un pouvoir de venir dire à la personne?
Non, pas si c'est sous la juridiction de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
C'est beau, c'est ce que je voulais savoir. OK. Parce que j'ai vu de mes yeux, OK, là, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un formulaire qui a été donné à quelqu'un, signifié à quelqu'un, « Monsieur, vous ne respectez pas la loi sur la protection du territoire agricole du Québec, selon l'article 22, je crois, vous, à une fin autre que l'agriculture. Vous n'aviez pas, à ce moment-là, le pouvoir de faire ça. » OK. Je doute pas de votre bonne foi. C'est que peut-être que M. Godin...
Je connais pas tous les faits. Je connais pas qu'est-ce qui entourait, justement, qu'est-ce qui pouvait faire que Jean-François réponde telle réponse plutôt que telle réponse? Il faudrait que j'aie le contexte.
C'est pas une réponse, c'est une mise en demeure qu'une personne que je connais bien a reçue, lui disant de remettre en état les lieux parce qu'il a contrevenu à la loi sur la protection du territoire agricole du Québec.
C'est le seul motif, ça m'étonne, là, mais en tout cas.
Dans la question, la dernière fois que je suis venu ici, c'est au mois de juillet 2021. C'est passé bien des choses dans ma vie depuis ce temps-là, là. OK, d'ailleurs, M. Talfait, vous étiez là. OK. Je crois aussi, Mme Benoît est là. Je vais poser la question suivante. Qui est responsable de l'entretien du canal Saint-Ignace? Ça va? Parce que je voulais dire, là, tout ce qu'il y a dans le canal Saint-Hyacinthe, OK? Donc là, c'était, il y avait une juridiction MRC, municipalité de Saint-Hyacinthe. On va avancer là-dedans, OK? OK? Au mois de septembre, et je pièce bien mes mots, puis c'est enregistré, là, deux personnes de l'ancien conseil, fin septembre, fin août, début septembre, OK, m'ont parlé pour me demander, autrement dit, de me clairer de là, parce que là, il y avait des négociations pour, avec, je ne sais pas, la ZIP, puis d'autres choses, d'autres gens, puis aussi une question de propriété, là. Aujourd'hui, là, c'est quoi l'état de la situation du canal de Saint-Hyacinthe, parce que je n'ai jamais eu d'autres nouvelles, et deuxièmement, on en est où avec ceux qui n'ont pas de fausse sceptique?
Bon, écoute, premièrement, juillet 2021, moi, je n'étais pas là, c'est l'ancienne administration.
Bon, comme si on arrête tout ce qui est avant votre administration, on n'en fait plus de bord.
Non, c'est juste pas ça que je dis. Je dis que là, je ne peux pas te
répondre. Mais monsieur, t'as
là. Parce qu'on ne sait pas parler de ça aujourd'hui. Hein, on ne sait pas les questions à l'avance.
Non, c'est ça qui est plate.
C'est ça. Alors, je ne sais pas, monsieur Talfaire, peut-être que vous savez ce qui en est.
Oui, ça y est. Il y a des interventions qui ont été faites avec la MRC. Donc, on travaille avec la MRC. Parce que c'est une juridiction qui est quand même assez particulière dans ce cas-là, parce que c'est les propriétaires aussi des rives qui sont responsables de l'entretien.
Là, on parle d'entretien, là. Moi, je parle, parce qu'on ne comprend pas avec les mots, je parle aussi de qu'est-ce qu'il y a dans le canal de Saint-Hyacinthe.
Ben, c'est ça, mais regardez, quand on parle d'entretien, on parle d'entretien, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le canal, ça fait partie de l'entretien du canal.
Les arches sont cassées, les pneus, les cuves de ce que vous voulez, et aussi, encore, je vous en informe, j'ai des photos chez moi, il y a quatre tuyaux qui
se
dans le canal
Saint-Hyacinthe. Il y a quatre tuyaux actuellement qui se déversent dans le canal Saint-Hyacinthe. J'ai des photos depuis l'an passé. Et ils sont pas hors là. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui avance. OK? Je crois, puis vous étiez une des favorables à ça aussi à un moment donné. Rappelez-vous, madame, ouais, interrompue. Okay, le canal Saint-Hyacinthe, c'est un nid à bactéries, OK? Puis, etc. Là. Puis ça n'a pas avancé depuis un an, surtout qu'on m'avait dit poliment de fermer ma gueule voilà un an parce qu'il y avait des choses qui s'en venaient. Bon, je ne vous blâme pas du tout le conseil actuel, pas du tout.
Il y a des interventions qui ont été faites auprès de certaines personnes qui sont propriétaires en bordure, donc, du canal pour régulariser les situations. Donc, tantôt, vous n'aimez pas qu'on parle donc, des cas des autres personnes. Donc, c'est sûr que je ne vous parlerai pas de l'intervention qui est faite auprès de d'autres citoyens qui ne sont pas ici ce soir. Okay.
Mais il y a des interventions. Non, je comprends ça.
Il y a des interventions qui se sont faites, okay, il y a des suivis à faire, okay, justement.
J'ai juste une dernière question, puis je laisse la place aux autres. Au niveau de la municipalité, qui est responsable de tenir à jour ce qu'on appelle la gestion, OK, des déversements des eaux, des déversements excédentaires des eaux usées dans le canal Saint-Hyacinthe par la municipalité de Saint-Hyacinthe, dans le canal Saint-Hyacinthe?
Tout déversement des eaux fait partie, OK, d'une politique gouvernementale qui nous oblige, OK, à avoir des registres. Donc, nous, on a tous les registres pour tous les déversements, et tout ce qu'on appelle une surverse, là, comme qui arrive une journée comme aujourd'hui, quand il y a un gros orage. C'est sûr qu'il y a nos stations de pompage peuvent déborder. Il y a un système d'alarme qui se fait.
Oui, c'est je comprends.
Vous êtes au courant. Donc, il y a un système d'alarme qui se fait, puis c'est noté, c'est envoyé annuellement auprès au gouvernement, au ministère de l'Environnement, qui fait le suivi avec nous.
Parce que sur Internet, vous pouvez voir les deux pires endroits, les deux moins propres, au Québec ou dans la région de Trois-Rivières, pour les nombres de déversements d'eau usée. Un, c'est dans la rivière Batiscan, en passant par la rivière des Anvilles, c'est Saint-Tite et Saint-Anne-de-Péranne. On a le nombre de déversements excédentaires, on a le nombre de litres. OK, là? Je ne sais pas, là, c'est pas bien bon pour notre santé générale. OK, fait que je comprends, là, très bien où est-ce qu'on en est. Je vais m'occuper de faire ma part pour la municipalité, pas pour la municipalité, pour les citoyens de Saint-Anne-de-Péranne. J'ai ma santé revenue, j'espère qu'on va me toffer encore, là.
Mais oui, comme tu parlais de fausses sceptiques aussi, s'il y en a qui sont contrevenants, là, on ne peut pas le savoir jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui s'aperçoive qu'il y a un contrevenant et qu'il n'y a pas de fausses sceptiques.
Mais vous me reprendrez, M. Talfaire, vous savez parfaitement sur une carte où sont les rues où on a quoi, un système d'égout. Je peux vous dire, là, comment ça prendrait de temps à deux personnes à faire le tour des rues où il n'y a pas d'égout et de dire à la personne qui est propriétaire où est votre fosse sceptique, où est votre champ d'épuration?
Je peux vous dire que le recensement de toutes les résidences, au niveau soit qui sont branchées à une fosse sceptique ou qui sont branchées au réseau d'égout, on sait exactement qui traite, de quelle façon, ces rejets d'eau, que ce soit dans une fosse sceptique ou dans le réseau d'égout, de la municipalité. Donc ça, c'est fait, Ce registre-là, OK, on l'a. C'est sûr que c'est un registre, OK, qui n'est pas public, qui n'est pas d'accès public, parce que ça comporte, OK, des renseignements personnels, OK, qui ne sont pas de nature publique. Là. Mais, attendez, je peux vous dire qu'il y en a très, très, très peu.
Très peu, ça veut dire combien? Ouais. Parce que chez le monde qui avait là, un an.
Ben, regardez, ça n'a pas bougé depuis un an.
Pardon?
Je
ne
sais pas c'est quoi votre chiffre, là. C'est livre d'un an.
Je vous demande votre chiffre que vous avez. C'est moi qui pose des questions, c'est pour vous, monsieur.
Il faudrait que je revérifie, mais regardez, il y en a très, très, très.
Parce que les gens, que ce soit les du Lange, les du Sort, toutes les îles, peu importe comment vous voulez les appeler, là, ils ont été obligés de se faire des faux sceptiques. Okay? Puis tous les gens en général ont fait une faux sceptique. Okay? Ils ont payé beau que ça coûtait 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, ça dépend d'un paquet de facteurs et des grosseurs. Okay, là? Okay? Moi, je ne comprends plus là, quand on est rendu là. Là. Okay, là. Dans mon temps, il y en a qui en avaient. Dans mon temps, pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui ai eu la bad luck d'être père, mettons, okay, dans ces farces-là. Okay? Mais il y en a là, qui n'avaient pas les moyens. Okay? Si quelqu'un n'a pas les moyens de payer ses taxes municipales, est-ce que vous allez faire comme le pape, commencer à vous excuser? Non, vous allez dire, il faut que tu payes tes taxes. Donc, ceux qui n'ont pas une fausse sceptique, je ne comprends pas le gouvernement, comment ça fait qu'il ne bouge pas. Puis, alors, le conseil municipal non plus.
Au niveau politique, hein, il y a bien des choses qui ne se font pas. Hein?
Ouais,
il y en a qui se font, mais il y en a qui se font pas. Les priorités...
Je vais laisser les autres, là, pour que je n'en ai pas d'autres.
Je pense que le temps est pas mal écoulé.
Non, c'est la place. J'en ai une petite question posée.
En 2015, monsieur Daffaire a été témoin, il y a eu un référendum pour l'installation de lumière de...
Sur la rue Garnet. Il y a eu un référendum, j'avais fait signer une pétition.
Une pétition.
Juste pour moi, excusez-moi.
C'est un référendum ou une pétition?
Non, il y a une pétition, après ça, la municipalité a fait un référendum où on a vu environ 60% des personnes qui avaient dit oui pour des lumières de rue. Mais attendons, des lumières de rue, là, pas pour lire notre journal, vraiment des lumières de rue à toutes les X photos. Okay? Il n'y a jamais été rien de fait depuis ce temps-là. L'ancien conseil, c'est beau, je ne donne pas votre conseil, pas du tout. Là. Okay, là. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, madame la mairesse?
Sauf erreur de ma part, il n'y avait pas une majorité qui était favorable
à avoir des
lumières sur le régamelin. Sur le régamelin, est-ce que les gens étaient tous favorables?
Oui. Ben, pas tous. Non,
non c'est ça. Il n'y avait pas une. Il n'y avait pas unanimité.
C'est sûr qu'ils n'arrivent pas là à l'année.
Mm-hmm.
Okay. Là, c'est une question de majorité. Un référendum, ce n'est pas 100% qu'ils doivent dire oui.
Faudrait peut-être resonder les gens qui demeurent.
Non, je ne fais pas votre travail.
Non. C'est pas ça que je dis. Il faudrait peut-être resonder, ça peut être nous autres qui fassent un sondage pour voir qui serait intéressé, s'il y a une majorité ou une
2015,
unanimité pour un éclairage de rue Gamelin, entre autres.
OK, je comprends, mais oui, quand j'avais parti ça, là, parce qu'il fait noir l'automne, parce qu'à partir du mois de novembre, là, OK, là, ici, on a des éclairages. Ils avaient des dames comme Mme Debout qui est âgée à l'opère, puis d'autres personnes, puis il y avait d'autres personnes qui avaient se promener à la clarté. Okay. En 2015, on n'a jamais entendu parler. Le dossier est ressorti. Okay. Parce qu'il y en a qui m'en ont reparlé.
Oui, récemment, probablement. Récemment, à cause que l'automne s'en vient. Récemment, j'imagine, on s'en a reparlé. On peut resonder à ce moment-là les gens, à savoir s'ils sont toujours, s'ils sont favorables, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas majoritairement favorables.
Pardon?
Ils n'étaient pas majoritairement favorables à l'époque.
Non,
pour les trois presqu'îles.
Le courriel que j'ai envoyé à maître... Pas maître Germain, il y a des Germains qui font ça. Excusez-moi, j'ai porté mes dents dans mon accident. Moi, je m'envoie envoyer le résultat. Il y avait 60% des gens qui ont été votés, ont dit oui aux lumières, ça a pu gagner.
OK.
Et depuis tant de temps, jamais bien.
En 2015.
Oui, madame.
C'est bien. Oui, si vous avez une question, allez-y, monsieur.
Une petite rapide. Je reviens encore en ce mois d'août. J'étais venu au mois de...
Oui, je me rappelle de vous.
Dernier, au juin. On va reparler des Dodanes. Dodanes, rue de la Fabrique. Le 13 juin, j'étais venu. Les deux semaines qui ont suivi étaient la fin de l'école. J'ai servi pendant ces deux semaines-là de Dodanes humain. Je me mettais dans le milieu de la rue, tout simplement, l'heure du dîner, le temps que les jeunes sortent de l'école, parce que ça roule en Mongol. La vitesse est de 50 à 60 km/h. J'ai failli bosser des ailes parce qu'il y en a qui regardent juste même pas en avant. Ils regardent qu'est-ce qui se passe dans le centre, à Angers-la-Pointe, le mont de charge. Puis ça regarde pas. Ça passe vite. Donc, je me mets dans le milieu de la rue ou sur le bord, puis je fais comme si je voulais traverser, puis je lui ai dit de ralentir, tout simplement. C'est la sécurité de nos enfants qui est en jeu. La mienne est encore là pour un an minimum. Et puis, il y en a d'autres enfants aussi qui vont être là. Ceux à Elisabeth qui vont y aller aussi pendant quelques années. Ceux à Hugo, Pierre, je pense aux enfants de...
Je pense que ça, je vous dis, le conseil est très sensible et on a des demandes. Peut-être que M. Taillefer peut nous dire s'il y a eu des commandes par rapport, parce que des panneaux, des stops ou des limites de vitesse, on n'en fabrique pas, là.
J'ai arrêté M. Taillefer la semaine d'après, je pense, pour lui montrer où ce que de où je parlais, là. C'est comme dans le milieu du stationnement.
Les membres du conseil en ont discuté lors d'un caucus. Et qu'est-ce qui a été décidé? C'est de rajouter un troisième panneau ancré.
Ça n'a pas d'incidence parce que le monde entre les panneaux clenche, mais même arrivé à un panneau, ça passe très bien. Vous aviez dit aussi que c'était le nettoyeur de rue aussi. Avec un dos d'angle, ça se passe, le nettoyeur de rue. Il passe sous le long du trottoir, pas dans le milieu de la rue nécessairement. Donc, de faire ralentir le monde là-bas. S'il faut en mettre trois dos, mettez-en trois. S'il faut en mettre au moins un pour éviter qu'un de nos enfants se fasse frapper, ce serait le best. Me semble au minimum. Parce que ça passe là, le midi, ça passe. J'ai même arrêté un policier la semaine d'après pour lui demander de venir faire du radar. Il m'a dit oui, il va venir avec le séchoir parce que j'ai juste celui de char puis je veux cacher le char. Fait que j'ai dit parfait, on l'a jamais vu.
Bon.
On l'a jamais vu. Fait que j'aimerais beaucoup qu'il y ait de quoi de fait pour la rue de la fabrique. Parce que je vous le dis, ça passe en Mongol, puis je vais avoir des accusations de fait sur un véhicule quand je vais en poker. C'est sûr.
Écoutez, on est sensible, puis c'est pas parce qu'on n'était pas sensible à ce que vous nous avez dit récemment, mais on est très sensible à ça, puis on est sûr de la sécurité des enfants. Vous l'avez dit, on a deux conseillers ici qui ont des jeunes enfants également qui vont à l'école. C'est pas qu'on n'a pas considéré votre demande. On va agir plus rapidement et on va tâcher de vous donner satisfaction.
Excellent, merci beaucoup.
On va poursuivre ça peut-être, Anthony, de venir à la deuxième période de questions. Il y a une deuxième période de questions, ce sera bienvenu. Alors, au point C, l'administration générale. Consommation électrique pour le mois de juillet 2022 pour un montant de 3 823,22. J'aurais besoin d'une... C'est-à-dire, on n'a pas besoin de proposition, c'est de dépôt de documents. Consommation d'eau, juillet 2022, en provenance de Vatican. On n'a pas eu les chiffres. C'est l'habitude. De Saint-Prosper, en provenance de Saint-Prosper, 21 382 000 litres. Et de Sainte-Anne, 22 872 000 litres. Alors, c'est des dépôts de documents. On n'a pas besoin de propositions. On n'a pas de correspondance pour la route Éramont. Alors, ceux qui sont natifs de Sainte-Anne connaissent bien ce vocable-là. La route Éramont est connue ce nom-là. Et à la commission de toponymie, on parle de route Baillargeon. Alors, c'est sûr que ça ne dira pas rien si on changeait en vertu de ce que recommande la commission de toponymie pour route Baillargeon. Alors, on va demander à ce moment-là à la commission de toponymie de conserver le nom de route Éramont et j'aurais besoin à ce moment-là d'une proposition.
C'est ça, c'est sur le secteur qu'on quitte de l'entrée jusqu'au premier croisement. Là, puis après ça, ça devient la route Baillargeon. Donc, c'est de conserver cette partie-là d'illumination.
Sous le nom connu.
Oui.
Une proposition?
C'est bon. J'avais une question par contre. Oui. Est-ce que ça serait pertinent d'ajouter une affiche indiquant route Baillargeon en dessous de la route Éramont pour que les deux soient bien identifiés? C'est ce que je propose.
C'est pas si la commission de toponymie.
Oui, on peut le faire tout simplement.
Oui.
Route Éramont au-dessus, route Baillargeon avec une flèche. OK, comme quoi qui indique.
Que c'est la poursuite.
Du
saut. C'est ça. Oui.
C'est ça.
Oui.
Parce que c'est vraiment bien indiqué. Là, on voit sur Google Maps que c'est le début à partir du Rapide Nord, c'est route Éramont. Puis ensuite, pour se poursuivre, route Baillargeon. C'est ça. Ça. Oui, exactement. Alors, c'est ce que je proposerais qu'on ajoute. Une affiche.
Est-ce que Merci. Tout le monde est d'accord pour la proposition?
Oui.
Merci Benoît, siège numéro 5. Merci.
Alors, est-ce que j'ai une proposition?
Oui.
Dans ce sens-là?
Oui. Là, c'est moi.
OK, parfait. Maintenant, Centre de gestion d'équipements roulants, alors, ils ont maintenant établi, ils nous ont remis le coût entre les mains. Ils vont C'est une moindre couverture. En fait, il nous enlève les risques pour accident et perte totale. Ils retirent la couverture de leur service de garantie fonctionnelle. Mais la municipalité est déjà assurée par la mutuelle des municipalités du Québec. Alors, on va continuer dans ce sens-là. Ça ne fait pas en sorte qu'on est mal pris ou que la municipalité n'est pas couverte. Elle est couverte, mais par une autre, par une compagnie d'assurance qui est la mutuelle des municipalités du Québec. Alors, j'aurais besoin d'une proposition.
Pierre Bellemare, c'est le numéro 1, je propose.
Merci. Règlement de remplant, d'emprunt, c'est un appel d'offres du gouvernement. Il s'agit d'une résolution de concordance du bordereau de soumission. Et c'est pour réaliser un emprunt de 927 000 $ sur un terme plus court, soit de 5 ans. Alors, on réduit le délai et à ce moment-là, on procède par appel d'offres. Alors, j'aurais besoin d'une proposition.
Échange, je propose.
Alors, en suivi, c'est en lien avec le point dont je viens de parler, le règlement d'emprunt, il y a, une fois que l'appel d'offres est lancé, il y a bien sûr l'adjudication d'appel d'offres. Donc, à ce moment-là, il y a un soumissionnaire et il y a eu ouverture des soumissions ce matin à 10 h. Et c'est le soumissionnaire retenu a été la Caisse populaire Mekinac des Chinois pour un taux de 4,42%. Alors, les taux d'intérêt sont plus élevés qu'auparavant. Et ça me prend à ce moment-là une proposition pour cette résolution d'adjudication de l'appel d'offres.
Je propose Nancy Benoît.
Merci. Cimentier-la-Violette. Vous vous rappellerez qu'au conseil du 14 mars, le conseil a décidé de refuser de payer un extra qui était demandé par Cimentier-la-Violette sous prétexte, en tout cas, ce qu'il prétend, c'est qu'ils avaient convenu verbalement que cet extra-là serait compris au contrat. Alors, on comprend bien que quand il n'y a pas d'engagement du conseil municipal par résolution qui vient dire qu'il y a un extra à ce moment-là au contrat de tel montant, alors à ce moment-là, là où on en est, c'est que c'est maintenant contesté devant la Cour et on demande à ce moment-là, les membres du conseil se sont penchés pour donner un mandat à nos procureurs pour contester la demande supplémentaire d'un extra, un contrat des trottoirs. Vous vous rappellerez que Cimentier-la-Violette a fait des trottoirs récemment, des beaux trottoirs neufs, mais l'extra ne lui est pas dû. Alors, je demanderai une proposition.
Vous, Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose.
Merci. Au point D, contrat et appel d'offres, station de pompage de Saint-Prosper. Bon, on a une réparation de la génératrice, alors on a l'obligation de réparer. Et ça entraîne des coûts. Alors, c'est d'un montant de 11 699 $. Alors, je demanderai une proposition pour l'autorisation de la dépense.
Richard, je propose.
Merci. Remplacement du PUP1, alors c'était dans nos objectifs. Notre eau n'est pas une source inépuisable. Alors, il y a un remplacement du PUP1 qui est situé à Saint-Prosper, dans la montagne. Alors, c'est une autorisation de la dépense, et là, le puits n'est pas en opération. C'est une autorisation de la dépense pour trouver l'emplacement, pour forer, et dans un sol qui serait bon, justement, pour qu'on puisse forer pour avoir un puits pour aller chercher de l'eau. Alors là, ce coût-là couvre seulement la recherche de l'emplacement du nouveau puits, de 20 468 $. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'autorisation de la dépense.
Je propose Nancy Benoît.
Merci. Accessibilité universelle, donc vous savez, c'est les portes du centre communautaire Charles-Henri-Lapointe. Alors, il y a un mandat à l'architecte qui avait été donné à l'architecte qui a déjà été réalisé. Et on a eu sa proposition aujourd'hui au montant de 7 700 $. C'est les services professionnels et la surveillance du chantier. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour autorisation, même si le mandat a déjà été effectué par l'architecte. Une proposition, s'il vous plaît.
Richard, je propose.
Merci. Il y a un avis de motion qui a été donné en juin pour un règlement, mais par contre, l'adoption du règlement ira en septembre en raison du délai. À partir de l'avis de motion, on a un 90 jours qu'on doit respecter. Donc, l'adoption du règlement pour ce règlement d'emprunt-là ira plus tard pour respecter le 90 jours de délai. Sécurité publique. Alors, l'unité d'urgence ambulance des premiers répondants. En 2015 et en 2016, il y a eu des résolutions adoptées respectivement On avait appris qu'il y avait eu une inspection et que cette ambulance-là, premier répondant, n'était plus conforme, mais qu'elle pouvait être adaptée dans l'intervalle. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et depuis, le camion ambulance et premier répondant était fort utile pour, entre autres, lorsqu'il y a un feu de cabane sur la glace au moment de la pêche aux petits poissons des chenaux. Ça a été fort utile. Alors là, on est rendu à la décision de savoir si on va conserver encore ce camion ambulance-là. Mais en même temps, on a des subventions qui sont accordées et qui vont nous donner l'opportunité, dans l'intervalle, on aura des subventions qui vont nous donner l'opportunité d'avoir un camion qui pourra servir. Ce ne sera plus celui-là ancien qui a été adapté et les coûts seront couverts entièrement. Alors, la décision n'a pas été prise. La décision qu'on a prise dans l'intervalle, c'est au moins, parce que là, on parlait de, parce que l'automne s'en vient à grands pas, on parlait de mettre des pneus d'hiver sur ce camion-là adapté, mais apparemment à l'époque, désuet. Alors, soit on demande à ce moment-là, ce que les membres ont été unanimes à décider, c'est qu'on va faire une inspection du véhicule pour voir les dépenses que ça pourrait encourir. Est-ce que véritablement, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que le moteur est fini? Est-ce que c'est dangereux pour la sécurité de ceux qui utilisent le véhicule et de ceux qui pourraient s'en servir pour les services que ce camion ambulance des premiers répondants offre? Alors, on a pris la décision d'abord, avant de prendre une décision finale, d'aller tout simplement faire une inspection mécanique du véhicule. Alors, pour cette décision, il y aura aussi, bien sûr, une rencontre avec les intéressés au préalable, une fois qu'on aura eu le résultat de l'inspection. Alors, à cet effet-là, j'aurais besoin d'une proposition pour que cette inspection-là soit effectuée.
Je propose Elisabeth.
Merci. En travaux publics, on n'a pas rien à l'ordre du jour, ni hygiène du milieu. Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire. Alors, il y a eu 3 demandes de dérogation mineure. Et je demanderai à Mme Nancy Benoît, qui siège au sein du Conseil consultatif d'urbanisme, de bien vouloir nous présenter chacune des dérogations mineures.
Je vais laisser Jacques. Je n'ai plus en tête ces dérogations. Désolée. Alors, on vient de me lancer la POC, mais c'était pas prévu. Alors, j'ai pas révisé mes notes.
On m'a dit que l'habitude. Alors,
ben, j'avais l'habitude avant, mais j'ai laissé l'habitude depuis novembre, étant donné que vous l'aviez pris. Fait que je la reprendrai le prochain mois. Fait que j'y vais à M. Taillefer. Je relance la POC.
Comme vous voulez,
donc
je connais tout.
Allez-y, je compléterai si vous pas compléter.
Alors, on a d'abord une demande au 700 montées d'enseignes, c'est de rendre conforme, en fait, on dit une serre, mais ce n'est pas une serre, c'est plutôt un fourni ou un salarium, parce qu'il a 4 murs, un toit et quelques fenêtres. Alors, ce n'est pas ouvert comme une serre. Elle est déjà installée sur une galerie existante dans la marge latérale de la ligne du lot, à une distance d'un mètre, alors que la norme est de 1,5 mètre. Alors, le Conseil consultatif d'urbanisme s'est penché là-dessus et il a accordé cette dérogation mineure-là, mais à la condition, parce qu'il y avait une fenêtre qui adonnait chez le voisin, à condition que la fenêtre soit givrée pour pas finalement qu'il y ait ça crée de servitude de vue au voisin immédiat. Alors, s'il y a des gens qui sont concernés dans la salle, qui veulent formuler des commentaires à cet effet-là, de toute façon, la dérogation a été accordée. J'aurais besoin d'une, s'il n'y a pas de personne qui se manifeste, j'aurais besoin d'une proposition et pour adoption de résolution.
Gaupierre Bellemare, siège numéro 1, je propose.
Merci. Pour la deuxième demande de dérogation, alors c'est le 876 Première Avenue, c'est de permettre l'installation d'une clôture dans la marge avant du lot, donc en avant du lot, d'une hauteur de 1,25 mètres. Alors que la norme est de 1 mètre. Alors, vous comprendrez que c'est une clôture qui, si le comité consultatif urbaniste avait donné son accord, c'est une clôture qui serait passablement haute. Alors, ce qui fait que le comité consultatif d'urbanisme a dit non, parce que, bon, La clôture devient tellement haute et ça n'assure pas la sécurité des biens et des enfants ou autre chose. Ça ne donne pas de garantie. Et là, ce n'est plus une clôture, mais ça ressemble plutôt à une barricade, à une hauteur d'un 25 mètres, 1,25 mètres. Alors, s'il y a des personnes intéressées ou concernées qui veulent se manifester en faveur ou en défaveur de cette dérogation-là, mais le Conseil constitutionnel s'est prononcé et a recommandé de ne pas aller de l'avant avec cette demande de dérogation mineure. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour adoption de résolution.
Change pas beaucoup.
Merci. La dernière demande de dérogation mineure, 285 2e Avenue, il s'agit de permettre l'agrandissement d'une structure qui est déjà existante à une distance d'un mètre, alors que la norme est de 2 mètres. Alors, ça paraît la moitié, ça paraît beaucoup, sauf que en agrandissant, faisant l'agrandissement, si on ne donnait pas l'accord, c'est comme si ça avait été en L. Alors que d'aller en ligne droite, l'espace finalement qui aurait été gagné aurait été réduit pour ceux qui demandaient la dérogation. Alors, même si on coupe de moitié, il n'y a pas de nuisance au voisin immédiat et ça ne crée pas de servitude de passage ou de vue pour le voisin immédiat. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a accepté, a accueilli la demande, cette troisième demande de dérogation. S'il n'y a personne dans la salle concernée qui se manifeste, à ce moment-là, je demanderai une proposition et résolution pour adoption. Oui?
Juste un ajout. Ici, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas le droit de mettre de fenêtre.
OK, puis il n'y a pas de fenêtre. Alors, si je ne risque pas d'avoir de servitude de vue non plus.
Je ne charge pas pour.
Alors, ça confirme qu'il n'y a pas de servitude de vue qui est créée par cette dérogation-là qui est accueillie. Loisirs et culture. Au point K, bibliothèque, centre communautaire, arena, parc et loisirs. Alors, hockey mineur et club de patinage artistique. Alors, la gratuité des activités est accordée. Oui, l'aréna est en déficit, mais le contexte qu'on m'a appris, c'est qu'à l'époque, ces deux OBNL-là demandaient des contributions à la municipalité pour un total de 15 000 $, c'est ça? Alors, c'est du donnant-donnant. Le 15 000, ils n'auront plus à nous le demander et c'est la raison pour laquelle on accorde la gratuité pour les pratiques de hockey mineur et club de patinage artistique. Alors, je m'en donnerai une proposition pour adoption de résolution.
Hugo-Pierre Bellemare, c'est le numéro 1, je propose.
Merci. Alors, s'il n'y a pas de divers qui s'annoncent que les membres du conseil voudraient dont on parle, que l'on puisse en parler, alors je passerai à la deuxième période de questions. Oui, Anthony.
Merci. Donc, Anthony Morin, je suis directeur général du mouvement d'action solidaire des sans-emploi, puis je suis intervenant psychosocial sur le territoire des Chenaux. J'ai eu à intervenir très récemment, pour des gens sans-emploi et en situation de difficulté sur le territoire, alors que je sortais de... J'étais en pleine vacances. Le communautaire, on le sait, prend souvent ses vacances l'été. On sait aussi qu'il y a beaucoup de structures qui ne sont pas disponibles l'été. Toutefois, il y a quand même des besoins. Ma question étant, qu'est-ce que la municipalité, quelle est la politique de la municipalité quant à la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale? Grosse question.
Bonne question. Écoutez, on est en contexte de plein emploi. C'est malheureux qu'effectivement, il y ait encore des gens qui soient sans emploi, peut-être par faute de formation ou autrement, autre raison. Mais oui, il est possible de s'y affairer. Ça n'est peut-être pas le cas. Hugo-Pierre me regarde. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter.
Non, parfois, il y a des maladies mentales aussi. Il y a diverses situations qui empêchent les personnes de pouvoir travailler. Il faut, je pense, respecter ça.
OK. Mais ce n'est pas que l'affaire de la municipalité, ce que j'en comprends, Anthony, c'est sur tout le territoire. Est-ce que des interventions sont faites à la MRC à ce propos?
Il y a des interventions qui sont faites au niveau du CIUS, au niveau de la MRC, au niveau des structures communautaires.
Okay.
Et vraiment, ce que je me demandais, c'est au niveau de la municipalité, parce que la municipalité a, je crois, le devoir, ne serait-ce que le rôle d'être proche de sa population. Et est-ce qu'elle a, justement, une politique de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale? Je donne l'exemple, et sans offense, au Centre d'action bénévole des riverains. le frigo partage, ce fameux frigo partage qui est exceptionnel, mais il est fermé quand le centre n'est pas ouvert. Donc, à ce moment-là, les gens qui sont un petit peu plus, concernés par leur dignité ou un petit peu plus gênés d'aller au frigo partage, ben, ils se retrouvent à y aller peut-être un petit peu plus tard le soir.
Une rectification, Anthony, c'est quand le centre communautaire Charles-Henri Lapointe est fermé.
Merci.
Que le frigo partage est fermé.
Merci de la précision. Ce qu'on m'a mentionné, c'est que justement, à ces moments-là, il était fermé et que ça limitait justement l'accès à ça. Donc, est-ce que la municipalité pourrait, ne serait-ce que par son influence, avoir une influence, même sur le territoire de la MRC des Chenaux, sur la lutte à la pauvreté et l'exclusion
sociale? On comprend que bon, le frigo partage est un exemple. Il pourrait y avoir d'autres moyens pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion de ces gens-là, effectivement. Il faudra voir avec le Centre d'action bénévole qui pourra peut-être apporter, nous apporter des solutions pour peut-être extensionner. On comprend que quand le centre Charles-Henri-Lapointe est fermé, ces gens-là n'ont pas accès. C'est ce que j'en comprends. Alors, on va regarder ça, on va examiner ça et on va te revenir. Oui, Irina.
Bonjour. C'est pas mon genre de prendre le micro, mais en suivi à ce que mon collègue vient de mentionner. Marche-tu ce micro-là? Oui. ma question serait... Ce serait
Madame Karina Paquin, qui est au micro.
Oui, Karina Paquin, qui n'a plus de voix. Est-ce que le conseil pourrait réfléchir à une possibilité d'un budget de dépannage pour les citoyens lorsqu'ils se retrouvent en situation de précarité alimentaire?
Écoutez, ça c'est une solution. Ça pourrait être d'autres solutions. On va examiner ça avec les membres du conseil et voir des solutions. Est-ce qu'il y a des... Vous pouvez nous citer des exemples de municipalités qui ont œuvré dans ce sens-là, qui ont eu des initiatives heureuses?
Je n'ai pas d'exemple, mais je pense
que c'est bon pour nous d'être précurseurs.
Oui, on peut être les premiers aussi, et tout à fait. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions? Oui, M. Lafont.
Je voudrais savoir votre position à la MRS sur l'exemple que je vais donner. Quelle est la position, parce que c'est vous qui êtes le chef du gouvernement municipal de cette période politique, administrative, etc. Okay, je veux savoir, un membre de votre conseil passe devant une résidence, quelle qu'elle soit. Okay, et il sait très bien que la résidence contrevient à un règlement municipal qui va se qualifier d'infraction. Okay, parce que pour porter plainte, habituellement, c'est l'individu qui porte plainte. Okay, mais un conseiller qui le sait, que cette résidence-là est en défaut, okay, à votre avis, devrait-il déclarer, oui ou non, que le 412, maintenant rue Gamin, ou le 435, c'est bien, c'est chez nous, c'est le chicane, okay, que la personne contenue avec la main municipale a-t-elle le devoir ou devrait-elle déclarer qu'elle sait très bien que la personne est en défaut ou en infraction ou ne respectait pas un règlement municipal?
Ben, écoutez, en son âme et conscience, c'est aussi un citoyen. S'il veut porter plainte, il peut porter plainte, mais je dis c'est pas l'essentiel de son rôle que de porter plainte contre un citoyen, là, mais il peut sûrement le soumettre à l'inspecteur en environnement bâtiment s'il est en infraction dans ce sens-là.
Ok, je comprends votre réponse, excellent. Mais est-ce qu'il devrait, qui n'est pas une option?
Ben, parce c'est que lui si on qui dit décide.
Que tous les membres du conseil sont de bonne foi, vous savez, quelqu'un sait très bien que cette personne-là du 435 rue Gamelin, c'est moi, c'est chez nous, pour ne pas faire de cas d'espèce, là, je suis en défaut, là.
Okay, là. Mais
ne devrait-il pas le déclarer? Parce que vous savez qu'il va de les gens au conseil sont élus pour prendre des décisions, prendre en protection des citoyens, là, ce que je ne vous donnerai pas un cours de morale là-dessus du tout. Mais il y a aussi, par rapport à la crédibilité des conseils, et c'est bien marqué sur le site du MAMRO, okay, qu'il n'a pas de la crédibilité des conseils, okay, que le faire respecter les règlements, chercher ceux qui ne suivent pas, ce n'est pas le job des conseillers, ça, je suis d'accord à 100%. Mais quand un conseiller le sait et qu'il ne le déclare pas, je fais juste de soulever la question, puis je me demande peut-être d'y réfléchir un jour, là, okay? Mais je pense que moi, un conseiller qui est de bonne foi, okay, sans se mettre au bâton puis compléter le formulaire, devrait dire, OK, le 435 rue Gamelin, chez Yvon Lafont, il ne respecte pas le règlement municipal. Parce que je crois que ce serait injuste, parce que là, C'est la logique.
Mais en tout cas, si le citoyen le constate, il y a sûrement un voisin qui le constate aussi, là. Il ne porte pas plainte non plus. Ah, alors, écoutez, okay. Moi, je pense que dans son âme et conscience, là, c'est à lui, à ce moment-là, de décider s'il va porter le tout à l'attention de la municipalité. Mais je ne peux pas mettre un fusil sur la tempe des conseillers pour les obliger.
Non.
Mais en son âme et conscience, là, son rôle...
Je ne veux pas la bonne foi des conseillers, mais si par... parce que si quelqu'un exerce une activité dans une résidence, qui fait en sorte que si les rôles, mettons, ne seraient pas bien faits, mais faits chaque année, pour venir, la valeur de son immeuble serait augmentée. Okay? En tenant sa mort depuis 2019, la municipalité perd une source de revenus additionnels qui est compensée par les autres payeurs de taxes pour compenser parce qu'il y en a qui devraient être billés plus cher qu'ils ne le sont pas. Parce que pour ce qui est du conseiller, là, vous n'avez pas le droit de la cette fameuse question-là qui n'est pas facile à répondre, là. Je voulais avoir votre opinion, là. Okay. Je vous promets, je vais faire une recherche, puis je vous reviens au mois de septembre.
Une recherche
sur quelle devrait être l'attitude d'un membre du conseil qui sait qu'un 435 ne respecte pas un règlement. Je vais faire une recherche personnelle.
Sûrement qu'on a des indices. On a tous été formés pour le code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, sûrement qu'on peut y voir des indices comment un conseiller ou un élu doit réagir quand il y a quelqu'un qui sait qu'il commet une infraction.
Sûrement
prévu dans le code d'éthique et de déontologie.
Il n'y a pas d'obligation à déclarer.
Selon notre code de déontologie, quand on n'est pas en service, on n'est pas en service. Les conseillers municipaux, je ne dis pas l'inverse qu'on ne devrait pas, je ne veux pas me...
Mais vous êtes en service quand officiellement, un conseiller?
Lorsqu'on siège, lorsqu'on est en caucus, et lors d'événements qu'on est demandé à faire appel, à être présent.
C'est beau.
Mais je ne dis pas l'inverse, puis... C'est important qu'on s'implique dans la municipalité.
Ah, non,
mais il y a un code d'aide.
Je ne sais pas vous appliquez pas du tout. Là.
Merci.
OK, c'est bon.
Oui, Anthony.
Donc, Anthony Morin, j'ai encore une dernière question. Concernant le parc du pont, qui est formidable, un emplacement génial, on a à la station touristique des canots, en fait des kayaks, pour être plus précis. Et je me demandais. Pourquoi se fait-il, puisqu'ils sont disponibles à la population, pourquoi ils ne sont pas davantage affichés, ces canaux, et pourquoi ce n'est pas davantage publicisé, puisque ça peut avoir un impact direct sur l'économie de Saint-Anne-de-la-Pérade et aussi sur les services directs aux habitants de Saint-Anne-de-la-Pérade.
Je peux répondre à ça. Cette année, quand on a mis le projet en application, je pense qu'en 2019, l'élève en pleine pandémie, justement, on mettait les canaux à l'extérieur et tout, OK. Mais, donc, il y a eu 2 années de pandémie où est-ce que ça a coupé. Et cette année, c'est vraiment un problème de personnel aussi. Il manque de personnel au bureau d'information touristique. Donc, c'est sûr qu'on a publicisé par rapport aux citoyens Saint-Anne que le service est gratuit, mais par rapport aux clientèles extérieures, vraiment un problème. On a un problème de personnel, autant au BIT, on a un au domaine seigneurial, c'est les employés permanents du domaine qui font l'accueil des visiteurs, ils ne sont même pas dans leur bureau. Donc cette année, il y a vraiment un problème au quête personnel, mais c'est sûr que l'idéal, ce serait de retourner au service quand on l'avait mis en place en 2019. Donc sortir les canaux, les mettre en évidence pour à côté du mur, pour justement inciter les gens là, à les utiliser plus.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, on va continuer avec les rapports des comités. Tout simplement, je voudrais vous informer par rapport au comité des ressources humaines. Alors, vous savez qu'on est en démarche pour le poste à la direction générale. Alors, il y a eu une séance de travail et les membres du conseil, puisque ce sont les membres du conseil qui seront décisionnels quant à l'embauche, à l'unanimité, ont décidé de poursuivre le processus d'embauche avec un candidat en liste. C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Maintenant, il n'y a pas de rapport d'autres comités qui étaient prévus. Alors, à ce moment-là, je demanderai une pour la levée d'ajournement de la rencontre.
Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose.
Merci. Et merci de votre participation.
Merci.